Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI en ce lundi début de semaine et donc début de Radio Foot pour vous parler de cette planète football où il se passe toujours des choses. Et nous commencerons par évoquer bien sûr le PSG sans Neymar, une configuration qui pourrait durer. En Ligue 1, les Parisiens ont du ressort, ils ont facilement battu Rennes hier soir au Parc des Princes, mais en Ligue des Champions seront-ils au rendez-vous? Il leur faut envisager un Manchester qui se prépare avec entrain à rattraper son retard en Première Ligue et surtout à préparer son huitième de finale. À Marseille, rien ne va plus. Une nouvelle défaite en championnat sur la pelouse du Vélodrome et surtout un stade en colère des supporters ou peut-être de simples spectateurs qui interrompent le match. La situation donc semble aujourd'hui difficile à contrôler autour de la pelouse alors que sur le terrain, Balotelli est rentré dans les rangs et le niveau est un peu meilleur. Mais désormais, les prochains matchs seront à huis clos en attendant d'autres sanctions de la Ligue de football. Triste. Et puis un invité spécial aujourd'hui dans Radio Foot International, Olivier Dacour, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous rendre visite dans notre émission. Alors, je le dis aux plus jeunes, vous êtes un ancien footballeur, passé par les clubs de Strasbourg. Vous avez un point commun avec Habib Bey qui est à vos côtés.
Je l'ai vu arriver. Il était tout jeune. Il était tout jeune, avec beaucoup d'humilité, timide. C'était
l'inverse de tout ce qui change.
Il a changé, mais en bien.
Il a changé en bien.
Il a évolué, donc on est très fiers de sa carrière et de ce qu'il est devenu.
Je crois que vous pouvez être fiers l'un de l'autre. Vous êtes passé par Strasbourg, Lens, il y a eu aussi Leeds, la Roma et l'Inter Milan. Vous êtes polyglotte, on l'a entendu notamment dans ce documentaire pour lequel vous êtes venu co-écrit avec Marc Sauvourel et ça s'appelle « Je ne suis pas un singe, le racisme dans le football ». On va y revenir dans cette première partie d'émission puisque Canal+ l'a diffusé et Canal+ Afrique aussi, donc tous nos auditeurs l'ont vu. Et je vois Habib sourire parce que vous avez une petite anecdote en commun, c'est ça? Une Coupe du Monde?
Oui, une Coupe du Monde. J'aime bien quand il la raconte.
Vous l'avez emmené dans vos...
Il était tout jeune en fait. Il arrivait
en 98.
En 98, il arrivait de la réserve du PSG. Et quand il arrive, on a un devoir quand c'était mon petit frère, donc il fallait que je le prenne en main. Donc je lui ai montré la ville de Strasbourg, les petits coins, et je l'avais emmené avec moi voir la finale de la Coupe du Monde. Et il criait, il a porté le maillot du Sénégal, mais il était en bleu, blanc, rouge. Il disait merci Dax, c'est le plus beau jour de ma vie, merci, merci.
Vous savez qu'elle est un petit peu parodiée cette histoire, elle me plaît énormément, donc c'est pour ça que je la laisse raconter ça. Non, j'y étais vraiment et c'était oui, incroyable
alors,
de vivre
pour
ça.
Alors, pour tous vos auditeurs, j'ai la vidéo.
Ah bon,
qui croire.
Voilà. Vous avez non seulement les témoignages, mais en plus l'image. Aujourd'hui, le Stade de France a 21 ans. 21 ans qu'il existe et qu'il a été inauguré. Alors, face à vous, parce que vous n'êtes pas seul quand même dans cette émission, Franck Simon est là. Bonjour Franck.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Un petit yako au football congolais qui a perdu Pierre Ndiaye Moulamba, Mutumbula ce week-end. Donc, on adresse nos pensées, évidemment... à ceux qui sont les survivants aussi de cette équipe de 74 de la Coupe du Monde.
Demain, on prendra le temps d'en parler, mais Mondial Sport l'a déjà fait ce week-end. Et puis Bruno Constant, bonjour Bruno.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Hugo Moissonnier, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Radio Foot, c'est parti.
Non, 2018, ça existe encore. C'est vrai que ça m'a choqué.
Je voyais les gens dans les tribunes en train de faire des bruits de singes.
Alves que se come el plátano que le han lanzado. No había visto nunca en mi vida algo así.
C'était pas la première fois que t'entendais des cris de singes. Pourquoi cette fois-ci tu voulais quitter le terrain?
Ce n'était pas peut-être la première fois, mais c'était la fois de trop.
T'as jamais eu envie de dire, mais moi, je suis pas un singe.
Ma io non ho niente contro le scimmie, ma 100% una scimmia è più intelligente di loro.
Quelle politique mène la FIFA pour lutter contre le racisme?
Ça, c'est une bonne question. Olivier, c'est une très bonne question.
Sale négro, sale singe, tout ça, on n'a rien à faire dans les stades, ces gens-là.
Je suis noir. J'aimerais savoir déjà si ça ne te dérange pas.
Alors voilà, de quoi se remettre dans l'ambiance de ce documentaire, diffusé donc sur Canal+, il y a quelque temps, c'était le 6 janvier dernier, mais c'est difficile de vous avoir dans Radio Foot, Olivier Dacour, de vous réussir à vous attraper pour vous inviter dans notre émission. En tout cas, nos auditeurs d'Afrique avaient aussi pu le suivre sur Canal+, Afrique, passionnant donc, intéressant. Il y a cette remarque de Mario Balotelli, alors c'est en italien dans la bande-annonce qu'on vient d'entendre, quand vous lui dites, mais le titre donc de votre documentaire, c'est « Je ne suis pas un singe », puisque ces joueurs sont la cible de Simagré, on va dire comme ça, où on mime, où on crie, il y a des cris de singe. Et sa réponse, elle est géniale, Super Mario.
Ben, je crois que les téléspectateurs l'ont découvert, parce que souvent on montre une facette de Mario, d'enfant gâté, d'avoir un caractère très particulier quand on connaît son histoire, ben on a un petit peu plus d'empathie pour lui. Il a vécu des moments très difficiles et ça peut expliquer pour quelle raison parfois quand il y a un sentiment d'injustice, il peut craquer.
Il a été souvent insulté. Alors quand vous lui dites mais quand il y a des cris de singe, pourquoi vous leur répondez pas? Et il dit mais j'ai rien contre les singes. Et il ajoute ils sont plus intelligents qu'eux. Que en parlant de ses supporters qui insultent, quoi. Alors évidemment, tous ces témoignages, tout ce que vous avez pu accumuler de témoignages sont à la fois touchants et dérangeants. Et le pire est que finalement, d'autres insultes ont pu être constatées depuis que vous avez terminé votre documentaire, puisqu'il y a eu cette histoire autour de Kalidou Koulibaly, le joueur de Naples, le défenseur de Naples. C'était à San Siro le 26 décembre dernier, lors de Inter-Naples. Et les supporters de Naples, ensuite, quand Koulibaly va jouer là-bas, eux portent tous une photo, disent avec ce masque « Nous sommes tous Koulibaly ». Hier, il revient à San Siro. Il joue de nouveau à San Siro, donc dans le même stade où il y a eu ces cris de singe, où on va y revenir après, il avait été exclu. Là, il joue contre le Milan AC, alors c'est peut-être d'autres supporters, mais... Et là, hier, on l'a applaudi. Comment comprendre, parce qu'on parle beaucoup du racisme en Italie actuellement, et
mais
vous êtes
passé... Mais pas qu'en Italie, on se focalise, nous, en France, en montrant du doigt les pays voisins. On a les mêmes problèmes en Italie, en France, en Espagne.
Mais justement, comment comprendre, comment comprendre que en quelques semaines, dans le même stade, alors certes, c'est pas le même match, c'est pas la même... Mais les gens se comportent différemment.
Parce qu'il y a une prise de position suite au match de l'Inter contre Naples. L'entraîneur Carlo Ancelotti, c'est une figure emblématique du football italien, a précisé, a dit que la prochaine fois qu'un de ses joueurs était victime de cris de singe, il dira à toute son équipe de sortir du terrain. Donc derrière tout ça, il a parlé, et il y a une prise de conscience, le maire de Milan s'était excusé, et les dirigeants, la fédération italienne, a pris des vraies mesures. Mais on a besoin de personnages très forts,
emblématiques
pour parler de ça et pour prendre des positions fortes.
Il ne faut pas que ça soit ponctuel surtout. Il ne faut pas que juste le phénomène amène à une réaction en fait des instances, des joueurs ou même de ces moments-là pour que ça soit juste ponctuel. C'est-à-dire que si ça suit deux semaines après et qu'il y a une réaction, je pense qu'elle doit continuer cette réaction. Moi, ce qui m'a plu aussi, c'est les prises de position de joueurs qui ne sont pas africains. Je pense à Icardi par exemple, qui a tout de suite dit l'Inter Milan c'est pas ça, la communauté footballistique c'est pas ça, ce qu'on vit c'est pas ça. Et je trouve que ce qui est fort en fait dans le reportage, c'est vrai qu'on voit justement ce qu'ont vécu les joueurs africains. Et ce qui est aussi important, c'est de dire, est-ce que justement les joueurs qui ne sont pas africains, qui subissent ces choses-là à travers leurs partenaires, sont aussi touchés par ça? Donc je pense qu'il y a une telle prise de position de la part de plein de joueurs européens qui ont dit je suis Koulibaly,
Cristiano Ronaldo,
ouais, je soutiens Koulibaly. C'est qu'à un moment donné, à partir du moment où le football dans sa globalité se mobilise, et pas seulement les joueurs africains, il y a quelque chose, un signal fort qui est envoyé, et forcément derrière ça va évoluer.
Moi je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas quand même. Tu le montres dans le documentaire, je crois que c'est Patrick Vieira qui le soulève. Pourquoi les joueurs autres, notamment l'affaire Eto'o ou comme il y a eu l'affaire Koulibaly, pourquoi tous les joueurs de des deux équipes ne quittent pas le terrain, ou du moins les coéquipiers, comme ça aurait dû être avec Eto'o. Et Patrick le soulève, il le soulève avec un exemple précis sur un match amical de son équipe de jeunes avec Manchester City, où il a décidé de quitter, je sais plus où c'était, mais il a décidé de quitter la pelouse avec ses joueurs.
Parce que
c'est Patrick, ça que je comprends pas, que les autres joueurs le fassent pas, en fait.
Par le club, et soutenu par son club. Donc, à partir du moment où le club le soutient, comme Napoli, ils soutiennent Koulibaly, parce qu'aussi, faut rappeler que Koulibaly, bah, il coûte plus de 100 millions d'euros. C'est un joueur très important. Et il y a une prise de position qui est importante du club, de l'entraîneur, et on veut pas le perdre.
Mais alors justement, oui. c'est peut-être très intéressant parce que il y a eu effectivement, on en a beaucoup parlé. Alors peut-être que c'était un moment, on le sait, propice où il y avait assez peu d'autres sujets. Et du coup, ça, ils en ont beaucoup parlé en Italie. Et il y avait eu il y a quelque temps un match à huis clos pour l'Inter dans ce même stade de San Siro, où ils avaient invité beaucoup d'enfants et où il y a eu effectivement, comme le maire, comme d'autres joueurs, beaucoup de messages. Et hier, on avait l'impression peut-être que, alors, est-ce que ça durera sur le long terme, mais en tout cas qu'il y avait une vraie prise de conscience, non, Olivier Dacourt?
Non, il y a pour le coup en Italie, j'y suis resté plus de 7 ans, donc il y a une prise de conscience très importante. Le club de l'Inter de Milan a fait une vidéo où tous les joueurs lutte contre le racisme, Bou, ça s'appelait. Donc ils ont fait un clip vidéo qui a été relayé partout. Après, faut pas simplement montrer l'Italie. L'Italie, nous on a commencé le documentaire il y a plus d'1 an. Et j'ai envie de dire que l'affaire Koulibaly, tout le monde m'a dit, putain, c'est incroyable l'affaire Koulibaly. Et je dis qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous.
Bien sûr. Mais alors justement, Koulibaly, hier, Canal+, le Canal Football Club est allé le voir avant le match d'hier en lui demandant ce que ça lui faisait de retourner dans ce stade et tout. Et voilà ce qu'il a aussi dit à la suite de ce qui s'était passé 15 jours avant.
Pendant le match, j'ai compris qu'il y avait des, on va dire, des chants racistes envers moi. Et au bout d'un moment, j'ai pété le plomb contre l'arbitre, mais c'est quelque chose que je regrette vraiment parce que c'est pas des choses à faire. Entre guillemets, je suis un joueur professionnel, il y a beaucoup de gens qui me prennent pour exemple et j'ai eu un geste déplacé envers l'arbitre et voilà, ça, je m'en excuse. Je pense que si un jour ça devrait se passer de nouveau, je pense que j'aurai une autre réaction.
Rester impassible?
Non, rester impassible et même aller voir l'arbitre et lui en parler.
Est-ce qu'il doit avoir des regrets d'avoir eu ce geste d'humeur?
Mais parce que là, il est touchant. Il est touchant et ça montre la qualité humaine. Koulibaly, il a été victime. Il est allé 3 fois voir l'arbitre pour lui dire que il y avait des cris de singe à son égard. Là, il dit ouais, j'aurais pas dû le faire. Il a un sentiment de culpabilité, ça montre son innocence. Ouais. C'est que ça a pris des proportions en Italie. Lui, il voulait pas ça parce qu'il est là pour jouer au football simplement. Alors que en Italie, tout le monde a parlé de lui. En Italie, mais en Europe, tout le monde a parlé de cette affaire.
Bien sûr.
Ouais. Justement, on parlait de l'Angleterre parce que vous dites que ce n'est pas qu'en Italie et vous
en
le montrez
France
très bien.
Aussi,
bien
France,
entendu, bien entendu.
Faut pas oublier la France.
Oui. Et vous en parlez aussi dans le documentaire, mais je voulais le témoignage parce que en Angleterre, ils ont une certaine manière de lutter contre le racisme en excluant des gens à vie du stade. Est-ce que ça porte ses fruits du côté de l'Angleterre, Bruno?
Bah déjà, faut rappeler que c'est quand même très très vieux ces histoires de racisme en Angleterre. Et tu te souviens dans le documentaire avec Paul Canoville que j'avais rencontré. Également le premier joueur noir à avoir porté le maillot de Chelsea, qui avait été victime, qui raconte une histoire hallucinante sur ses débuts à Chelsea, quand il s'échauffe sur le bord de la touche et qu'il entend des cris de singe, des insultes racistes et tout, il se retourne en pensant que c'était les joueurs de Crystal Palace, l'adversaire, et en fait c'est ses propres supporters de Chelsea. Il était marqué à vie par cette histoire et on se rend compte qu'à travers les âges, même s'ils ont beaucoup lutté contre le racisme, ils ont banni à vie beaucoup de hooligans, beaucoup de supporters surpris ou filmés en train de faire des propos raciste, mais on se aperçoit que 20 ans ou 30 ans après, c'est toujours la même chose. Il y a eu le cas avec Raheem Sterling lors du dernier match Chelsea-Manchester City en novembre dernier, et on a vu qu'il y avait encore cette filière raciste dans les tribunes anglaises qui est encore profonde et qui remonte depuis quelques mois ou depuis quelques années avec cette histoire de Brexit qui a rappelé un petit peu une fibre un peu nationaliste, patriote, trop marquée à droite de l'Angleterre. Et à travers le Brexit, ça s'est réveillé. Et ça s'est réveillé également dans les stades, parce que ce qu'on parle de racisme dans les stades, ça reste juste le reflet de la société d'aujourd'hui. Et ça revient aujourd'hui dans les stades de foot parce que ça revient partout en Europe.
Parce qu'il y a une montée du nationalisme en Europe. Et Et peut-être que en Italie, si tous les jours vous regardez la télé et on vous montre des bateaux de migrants qui arrivent tous les jours, tous les jours, bah il y a un repli sur soi-même et forcément ces idées, les idées politiques qu'on a dans la vie, quand on va au stade, on les ramène aussi dans le stade.
Mmh. Hugo ?
Oui, je reviens à Raheem Sterling qui a pointé aussi le traitement médiatique des joueurs noirs dans la presse. Pour faire simple, il dit quand un jeune joueur anglais blanc achète une maison, dépense des millions dans une maison, c'est quelqu'un qui a le sens de la famille, qui fait des investissements responsables. Quand c'est un jeune noir, c'est un flambeur. Donc la preuve que ça dépasse le cadre du stade, du simple stade de football et le simple cas de supporters qui manifestent ou qui font des cris de singe ou qui chantent leur racisme, c'est une mentalité plus large peut-être et qui touche aussi les commentateurs, voire les journalistes.
Parce que Sterling, depuis qu'il a éclos très très tôt, à l'âge de 17-18 ans, et depuis le début, les moindres faux pas, la moindre chose qu'il fait à l'extérieur du terrain, on lui en tient rigueur. Et il prend l'exemple, enfin c'est pas, il a pas pris l'exemple, mais tous les médias anglais ont bien vu quand le traitement de Phil Foden, qui est un petit joueur de Manchester City, qui est une vraie pépite, qui est blanc, qui fait les mêmes choses, qui, comme tout joueur qui a des nouveaux contrats, il achète une maison à sa famille, fait plaisir à sa famille. Sterling a fait exactement la même chose, et le traitement du même journal, du Daily Mail, était complètement différent.
Et là, c'était pas Sterling, c'est deux gamins du même âge. Là, c'est deux gamins. Il y a Foden et il y a un petit gamin qui a le même âge.
Oui, mais c'est Sterling qui avait le traitement.
Mais il montre en fait, les deux photos.
Oui.
Il y a des faits en fait. Mmh. Il fait un constat. Regardez, ça se passe comme ça. Et on voit.
Et malheureusement, c'est les tabloïds anglais qui ont une énorme influence, qui sont les plus vendus en Angleterre, qui martèle ce genre de message, et c'est ça qui est scandaleux. Et Sterling, pour une fois, un joueur s'est élevé comme ça, a eu le courage de s'élever, parce qu'il en a, franchement, il a pris plein la gueule depuis des mois, et il a ce courage-là, et c'est bien. Et maintenant, il faut le défendre, il faut que la fédération anglaise.
Et tu l'as également en France, quand Olivier en parle en France, si on fait une relation entre le premier documentaire Ma Pardon, si vous prenez Thierry Henry, main de Thierry Henry.
Bien sûr.
J'aimerais savoir si cette main avait été faite par un joueur blanc, si elle avait été traitée de la même façon en France. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi avoir une vision globale de la chose. Je pense qu'il a été un petit peu, même pas un petit peu, énormément traîné dans la boue pour cette main-là. Et rappelez-vous, il y avait Galas dans cette action. Je suis pas sûr que le traitement médiatique aurait été de la même façon s'il y avait eu, par exemple, un joueur blanc qui avait fait cette main. Donc on se rend compte que le traitement médiatique est forcément accentué quand c'est un joueur étranger. Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est quelque chose qui est entretenu par les journaux? Au vu de ce qu'a mis Raheem Sterling en perspective, on peut se dire que oui, puisque les deux traitements ont été faits de la même façon.
En sauf Angleterre, que c'est forcément très clair, bien sûr.
Ah oui, mais Olivier Dacourt, quand vous dites ça se passe en France, bien sûr, et je voulais y venir, il y a un moment aussi très touchant, c'est Joseph-Antoine Bell, alors qui est en plus consultant de RFI et notamment toujours pendant la CAN sur l'antenne. Joseph-Antoine Bell, ce qui est touchant, c'est qu'il se souvient exactement tout ce qui se passe, comment ça se passe quand il était à Marseille. Et notamment, il dit ça, il dit « Je suis passé du rang d'idole », donc quand il était à Marseille, il revient sous le maillot de Bordeaux, et là, il est devenu un joueur noir.
Parce que ça marque une vie. Avant d'être joueur de foot, on est un homme. Donc forcément, le joueur de foot, il est obligé de continuer, c'est son travail, mais l'homme est touché.
Mmh, ouais.
Donc ça marque une vie. Il s'en rappelait précisément.
Parmi les solutions, il y a celle d'Angleterre donc qui essaye de retrouver les gens et de les exclure des stades.
Les meilleurs à lutter contre le racisme, en tout cas sur une période,
oui,
sur cette période récente, ce sont les Anglais.
Mais parce que c'est tolérance zéro. Exactement, ce sont les plus radicaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a un qui est pris sur le fait, n'importe quoi, hein, que ce soit raciste ou n'importe quoi,
il est banni à vie. Un supporter anglais s'est moqué d'une personne asiatique. Derrière, il s'est retourné, banni à vie.
Pareil.
Également un supporter qui avait lancé récemment une peau de banane sur Pierre-Emerick Aubameyang, également suspendu.
Il y a encore eu les supporters de Millwall en cup qui ont fait des chants racistes, anti-asiatiques, et c'est toujours là.
Alors Samuel Eto'o, qui est aussi très très touchant quand il parle de ce dont il a été victime, parce qu'il y a cet épisode en Espagne sur lequel vous vous arrêtez longuement dans le documentaire. Samuel Eto'o, lui, il a une solution. Écoutons-le, parce que lorsqu'il dit il faudrait peut-être faire ça, est-ce que ça serait une bonne solution? C'est la question qu'on peut se poser.
La mesure forte pour toi, ça serait que tous les noirs,
les joueurs de couleur, disent on ne joue pas.
Tu penses que ça serait efficace?
Quoi? Beaucoup de gens vont perdre l'argent. Et quand tu touches déjà la poche de quelqu'un, je vais te dire, il va trouver des solutions. En premier, les télés. Et tu tu verras que ces patrons-là mettront la pression à ces instances qui dirigent le football mondial et beaucoup de choses vont changer.
Est-ce que ça pourrait être une solution, Olivier Dacco ? Vous qui avez travaillé un an sur ce documentaire.
Mais je pense qu'à un moment...
Il y a plusieurs solutions sans doute, mais est-ce que celle-là, elle n'est pas aussi...
L'enjeu prend le pas sur le jeu. Et il ne faut pas oublier que le football, ça reste un sport universel avec toutes ces valeurs, la solidarité, la fraternité. Et à un moment, on doit dire stop. Mais ça doit être l'ensemble de la famille du football, souvent, les dirigeants, les instances, les entraîneurs, les joueurs, les supporters.
Ça rejoint un peu ce que dit Carlo Ancelotti d'ailleurs au moment de l'affaire Koulibaly finalement.
Moi j'étais avec Samuel ce week-end en Mauritanie puisqu'il était avec moi et on en a discuté justement, et là où il a pas tort c'est que si vous isolez aujourd'hui, je dis bien isolé, c'est pas le mot par rapport à isolé au sens propre du terme, mais si vous prenez tous les joueurs africains ou même étrangers qui composent une équipe dans tous les championnats européens, vous vous rendez compte que c'est parfois jusqu'à 50% d'une équipe. Imaginez-vous que tous ces joueurs se rassemblent et décident d'arrêter, c'est-à-dire de dire stop, on veut plus vivre ça, donc tous autant qu'on est, on est solidaire, c'est la famille du football, c'est une première action. Moi, je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui est dit dans le documentaire, c'est si demain, par exemple, Abby Bey ou Olivier Dacour subissent ce genre de traitement, et que vous avez un joueur européen, blanc, qui dit, moi stop, je sors. C'est-à-dire c'est qu'il ça. Prend presque lui,
c'est ça.
L'initiative
c'est ça.
De dire, imaginez-vous, si ce jour-là, lorsque Samuel Eto'o vit cette chose-là, vous avez Edmilson, qui va le voir et qui lui dit non, qui le retient par le bras. Imaginez-vous si Edmilson, ce jour-là,
sort avec lui,
sort même avant Samuel Eto'o et dit stop, mon partenaire aujourd'hui vit quelque chose qui est inconcevable, qui est inadmissible, et moi je sors. Ce que dit Carlo Ancelotti en substance, c'est ça, de dire si un jour, encore une fois, un de mes joueurs subit ça, avant même que mon joueur puisse revendiquer quoi que ce soit, moi je les prends tous et je sors. Imaginez-vous le signal qui sera envoyé à ce moment-là.
Ce serait énorme. Je ne comprends pas que les joueurs blancs ne le fassent pas, en fait, ou ne l'aient jamais fait, parce que pour moi c'est de la responsabilité individuelle, et là on n'est plus dans l'histoire de contrat, de club, etc. Et les joueurs ne se montrent pas solidaires dans ce genre de situation, je ne vois pas à quel moment ils vont se montrer solidaires. Et je ne suis pas d'accord avec Samuel Eto'o quand il dit il faut que tous les blacks le fassent.
Ouais, moi
je ne suis pas d'accord. Il faut que tous les joueurs le fassent. Et juste les premiers à le faire, c'est justement peut-être les blancs, de se montrer solidaires, dire voilà, ok, on comprend ce qui se passe pour vous, et si nous on fait un pas, effectivement je suis d'accord, c'est là où il va se passer quelque chose.
Mais faut pas oublier que le football, c'est le sport collectif le plus individuel.
On est d'accord, malheureusement.
Mais d'ailleurs, il le dit dans le documentaire, il emploie un mot qui est dur, mais quand il dit le négro de service, c'est ce qu'il dit dans le documentaire, le nègre de maison, pardon, voilà, il dit le nègre de maison, c'est qu'il dit qu'à ce moment-là, il faut avoir du courage. Il faut avoir énormément de courage pour oublier ses intérêts individuels, parce que lorsque vous faites ça, en quelque sorte, vous pouvez mettre en péril votre image individuelle. Et certains joueurs africains renommés, on va dire avec beaucoup des légendes africaines, n'ont pas eu ce courage de faire et de suivre à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé à leur image, ils ont pensé à ce qu'ils allaient avoir
derrière, bien sûr.
Et lorsque Samuel dit ça, le nègre de maison, il a pas tort. C'est qu'à un moment donné, l'action, elle doit être forte et vous regardez plus vos intérêts personnels. Parce que quand Samuel fait ça, malgré le joueur qu'il est, il prend un risque énorme, lui, en quelque sorte, il l'oublie.
Mais Samuel Umtiti, Samuel Umtiti, il est champion du monde. Il est au FC Barcelone. Je peux te dire que lui, il prend un risque énorme parce qu'il peut ternir son image, parce que ça assujettit à la polémique. Et lui, il a hésité un petit peu. Je l'ai convaincu, il a parlé. Il y en a d'autres que je citerai pas, qui n'ont pas voulu s'exprimer.
Dans le documentaire.
Il y en a d'autres qui m'ont même pas répondu, des joueurs et même des entraîneurs.
C'est grave de pas avoir la liberté de parole sur ce genre de situation, c'est terrible. Hein.
Le courage.
Le courage, oui, mais de certaine manière, la liberté de pouvoir dire ce qu'on pense.
On se dit que si on commence à parler, il faut pas montrer. Moi, à aucun moment, je donne mon avis. Moi, je suis pas militant. Je fais un constat, je dénonce, je dis ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on fait. Je pose des questions.
Hugo ?
Oui, juste, il y a une évolution qui est certes beaucoup trop faible, mais il y a eu l'air d'avoir une certaine évolution, puisque Joseph-Antoine Bell, donc lui, il raconte plutôt les années 80, il parle de l'indifférence totale de ses coéquipiers quand lui est victime de cris racistes ou d'actes racistes. Là, on a vu avec l'affaire Koulibaly que la prise de conscience était déjà devenue un peu plus large, même si on est bien des années après, un tout petit peu plus large. Je parle d'une évolution.
Moi, dans mon enfant, parce que je suis quand même plus âgé qu'Habib. Moi, à 8 ans, je vois encore les bananes que reçoit Joseph-Antoine Bell. 35 ans après, c'est 37 pareil. Ans après, Dani Alves, il reçoit des bananes.
Je parle dans la prise de conscience des autres joueurs. Hein. Évidemment, le comportement du public, il reste très condamnable.
Mais c'est pareil, parce que à partir du moment où on n'est pas concerné, ben on fait pas attention. Soit on fait pas attention, soit on ferme les yeux.
Et puis c'est les réseaux sociaux. Pour moi, c'est facile de dire je suis Koulibaly. C'est facile. Le plus dur, c'est d'être sur le terrain et dire ok, il se passe ça, moi aussi, oui. Je te suis, je vais dehors avec toi.
Mais il faut surtout que nous aussi, on prenne conscience. On ne doit pas se fixer de limites. Par exemple, Pape Diouf dit à un moment dans le documentaire, le problème, c'est que nous-mêmes Africains, demain, aujourd'hui, on se fixe des limites. Moi, je prends un exemple aujourd'hui. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur et je suis dans une promotion où nous sommes 21, où il y a une dizaine de joueurs africains. Et qui me disent, par exemple, quand je leur dis « Ok, tu vas jusqu'au BEPF », c'est-à-dire jusqu'au dernier diplôme, qui me disent « Non, franchement, nous, là-haut, ça passe pas. » C'est-à-dire que là, déjà, on se fixe une limite en disant « Nous, de toute façon, on pourra jamais accéder en haut parce qu'on ne nous laissera pas y aller. » Je pense que dans la vie, et moi, je le vis à travers mon métier de consultant...
Parce que tu n'as pas d'exemple, Habib. Le problème, c'est qu'il faut que tu aies des exemples. Il faut que tu aies des mecs qui ont fait comme eux, qui sont partis d'où ils étaient, où ils sont arrivés. Donc forcément, tu voudras faire pareil. Si tu as des grands joueurs africains, ils ont montré la voie. Et il est important, on le voit, il est important, Patrick l'a souligné, qu'ils réussissent un petit peu pour montrer cette voie. On voit que c'est très compliqué, même avec la carrière exceptionnelle que peut avoir un Thierry Henry ou un Patrick
Vera, oui.
C'est quand même compliqué de montrer qui sont compétents en tant qu'entraîneur.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais il faut malgré tout avoir au fond de soi-même l'envie d'être une évidence. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une évidence, vous imposez aux gens, en quelque sorte, et que si ces barrières, elles sont fermées, le fait d'être une évidence, ces barrières vont s'ouvrir. Moi, aujourd'hui, dans mon cursus d'entraîneur, je ne me dis pas qu'à un moment donné, je vais être arrêté par le fait que je sois un joueur africain, que je sois sénégalais, franco-sénégalais. Je ne me pose pas cette limite. Et le fait de se poser nous-mêmes ces limites est déjà un handicap. Je pense qu'il faudrait aujourd'hui qu'on se dise tout est ouvert, tout est possible, allons-y tous ensemble et ensuite on verra. Peut-être que oui, on se rendra compte qu'à un moment donné c'est plus dur. Et c'est sûrement plus dur. Il a raison de le dire Patrick, c'est sûrement plus dur et peut-être qu'il faut faire encore plus nos preuves. Mais le fait déjà de se fixer cette limite, de dire, et moi quand j'en entends certains qui me disent « Oui mais vous savez les joueurs africains », je lui dis non, ne pense pas comme ça. Essaye de penser différemment, essaye d'être une évidence, essaye d'enfoncer les portes qui sont fermées parce qu'à un moment donné, de toute façon, tu devras le faire si tu veux t'imposer. Et c'est ce que je me fixe moi aujourd'hui comme objectif, de me dire « Voilà, je veux être une évidence dans le métier que je fais, je veux être une évidence dans les projets que j'entreprends, et que c'est aussi une question de mentalité pour nous, les joueurs africains. »
Olivier Dacco, pour terminer sur le documentaire, qu'est-ce que vous l'avez tourné donc et préparé pendant un an, il a été diffusé donc il y a à peu près un mois. Quels sont les retours, ou qu'est-ce que vous en retirez pour l'instant? Est-ce que justement vous disiez, hein, je prends pas parti, je pose des questions, j'établis des faits. Qu'est-ce que vous espérez malgré tout peut-être après la diffusion de ce documentaire?
Ce qui est important, c'est les enfants. Parce que les enfants, c'est l'avenir. Et nos enfants, à partir du moment où on leur explique comment ça se passe, l'ignorance, c'est la personne qui ne sait pas. À partir du moment où on éduque les enfants vont transmettre ce message qu'il est important, le vivre ensemble, le partage. C'est ce qui est important, c'est les enfants. Les adultes, bah, arriver à un moment... Le mec qui a 60 ans, 65 ans, ça va être compliqué de lui faire changer son état d'esprit. Mais un gamin, on peut encore.
On vous appelle d'écoles ou de lycées ou de collèges?
Là, j'interviens en fait avec certaines villes en région parisienne où on regarde le film. Et après, il y a un débat avec les plus jeunes. Pour les sensibiliser, justement. Mmh. Parce que dès leur plus jeune âge, ils sont déjà victimes d'insultes racistes. Et comment réagir?
Et vous êtes content de ce qui se passe avec les enfants quand vous présentez ce film?
Les enfants, c'est la vie, donc oui. À partir du moment où on voit un sourire sur un enfant, on est content, on a gagné.
Ils comprennent ce que vous venez d'expliquer.
Les enfants sont... Ils apprennent vite, c'est des éponges. Donc oui, ils comprennent ils mettent tout de suite en action.
Il faut espérer, Annie, parce que je le dis, c'est pas parce qu'Olivier est là, mais déjà le Ma Part d'Ombre était un reportage exceptionnel, où les gens l'ont dit, c'était ultra positif de découvrir les footballeurs d'une autre façon. Mm-hmm. Celui-ci, Je ne suis pas un singe, est un documentaire social, il faut pas l'oublier, il faut pas jamais oublier qu'on envoie un message, en tout cas Olivier envoie un message, et j'espère qu'un jour, à travers des festivals, que ces documentaires-là seront primés.
Non, on a invité, nous, on fait le festival l'année dernière, on a fait le Festival des Lumières à Lyon. Mm-hmm. C'était la première fois. Cette année, avec Je ne suis pas un singe, on repart. Donc ça montre que les personnes qui décident aussi tout ce qui est documentaire, film, ils sont aussi touchés par ce qu'on fait.
Il y a un désir de diffuser, mais
comme il est très bien,
faire connaître.
Comme il a été bien reçu le film pour beaucoup, on reçoit quand même des menaces ou des insultes. Donc
En tout cas, merci beaucoup,
merci à vous pour
Olivier Dacorp, pour ce documentaire qui vraiment était très très important, qui a été aussi vu en Afrique et donc on peut le revoir ou essayer de le revoir.
Il est sur Canal Plus à la demande, donc.
Donc on peut toujours le revoir. Ce documentaire qui avait été divulgué donc le 6 janvier dernier. Merci beaucoup.
Ça fait mal. Sans toi.
Tous les docteurs, tous les médecins m'ont dit qu'on doit attendre une semaine plus. On doit attendre la réaction de nez par rapport au traitement. Je ne perds pas ma confiance, mais ça va être super difficile, c'est clair.
Ça va mieux là, ton rotule là, ça va mieux?
C'est pas mal.
Ouais, ça,
pas terrible. Hein.
Franchement, ça va terrible. Tu m'as dit qu'au bout de 2 semaines, ça irait mieux, non?
Oui.
Hey, oh, je te paye pas 30 bâtons par mois pour te donner des couilles de gonzesse, non?
De l'humour pour présenter ce fait. La vie sans Neymar au Paris Saint-Germain, où on commence à avoir l'habitude, ou du moins avoir l'habitude de s'habituer à son absence au meilleur moment ou au pire moment. Dans 2 semaines, en effet, le Paris Saint-Germain ira jouer à Manchester et tout indique que ce match se disputera sans sa star brésilienne, blessée au pied. Neymar et les médecins restent prudents, ils réservent encore leur diagnostic, mais le médecin de la Seleção du Brésil, celui qui l'avait opéré l'an dernier, est arrivé pour justement s'occuper du pied de Neymar ici à Paris. En plus, il y aura une Copa América au Brésil le 14 juin où on compte évidemment là-bas aussi sur Neymar. Et Tite, le sélectionneur du Brésil, était hier au Parc des Princes. En tout cas, les informations provenant du Brésil évoquent 45 jours sans lui. C'est ça, Hugo, hein ? Les nouvelles sont un peu inquiétantes.
Selon certaines informations, ça pourrait aller jusqu'à la fin mars. En tout cas, il devrait rater, selon ces informations, il devrait rater la double confrontation face à Manchester United dans le 8e de finale de la Ligue des Champions. Et il y aurait, selon nos confrères de l'équipe, hein, qui publie cet article aujourd'hui, il y aurait un désaccord entre le staff du Paris Saint-Germain et le staff de la sélection brésilienne sur le traitement. Quel traitement pour Neymar? Faut-il l'opérer? Voilà, c'est tout simplement la question. Du côté du Brésil, on serait plutôt contre, et du côté du PSG, on serait plutôt résigné à opérer Neymar, ce qui aurait évidemment une conséquence sur ce...
Mais qu'est-ce que va faire le Brésil là-dedans?
Sur son établissement.
L'employeur, c'est le Paris Saint-Germain. C'est pas au Brésil de décider ce que va faire C'est pas au Brésil de décider ce que va faire Neymar. De toute façon, vu les informations, on dit qu'il y a un trait de fracture. Donc c'est simple, un trait de fracture. Je suis pas médecin, on n'est pas médecin, mais on a tous été à un moment donné blessés. Si c'est un trait de fracture ancien, c'est-à-dire que si c'est un trait de fracture, c'est le même qu'il y avait eu.
Apparemment, c'est la vis en fait.
Voilà.
Ils lui ont mis une vis et ça s'est ouvert un petit peu.
Donc si c'est un nouveau trait de fracture, de toute façon, vous pouvez considérer que pour la consolidation de ce trait de fracture, c'est déjà 6 semaines. Puisque c'est un petit peu le cas.
Si c'était cassé, bien sûr.
Voilà. Mm-hmm. Et derrière, il y a la rééducation. Je vois pas comment il pourrait être prêt, quoi qu'il arrive, pour la double
confrontation. C'est au joueur de décider théoriquement ce qu'il advient, si on l'opère, si on l'opère pas. C'est lui qui fait le choix.
C'est toujours le joueur qui a le dernier mot. Moi, je l'ai vécu sur une fracture, sur un patient.
Théoriquement, mais.
Sur une double rupture des ligaments. Mon club voulait opérer. Moi, j'ai refusé. Alors après, vous vous exposez, mais c'est Neymar. Donc je pense que Neymar a le loisir de choisir son traitement et peut-être par qui il est traité surtout.
Peut-être que t'étais plus dur au mal que lui aussi.
Oui, je sais pas, mais les enjeux avec Neymar sont beaucoup plus importants qu'un match de foot, en fait. Faut c'est juste.
Franck Simon, est-ce qu'hier on a vu justement un peu le début de l'ère sans Neymar quand on a eu ce match face à Rennes hier, et on a bien vu que Tuchel, la première mi-temps était compliquée pour le Paris Saint-Germain, qu'il a gagné, rappelons-le, 4-1, mais qui, c'est vrai, a eu quelques difficultés sur la première mi-temps, et ce n'était que 1-1 à la mi-temps. Est-ce que hier déjà on a vu que Tuchel est dans un schéma où il cherche à jouer sans son numéro 10 ces prochaines semaines?
Ça n'a pas commencé hier. Ça n'a pas commencé hier soir, ça a commencé dès sa blessure précédente, sa grande blessure. On a bien compris que l'intérêt du Paris Saint-Germain...
Mais
c'était pas Tourelle. Mais laissez-moi répondre. On a bien compris que c'était pas l'intérêt du Paris Saint-Germain qui prévalait, mais c'était l'intérêt du Brésil.
D'accord.
D'où l'intervention, je pense, d'Habib il y a quelques minutes pour dire, voilà, qu'est-ce que vient faire le Brésil ici? Donc aujourd'hui, c'est le Brésil, en fait, qui régit tout. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que le joueur, on va le préserver, et vous l'avez évoqué tout de suite en disant, ouais, mais il y a une Copa América. Mais on s'en fout de la Copa América. On s'en fout de la Copa América. En fait, on va le préserver.
Mais l'année dernière, l'excuse, c'était la Coupe du Monde, bien sûr.
C'est pour ça que je dis ça. On s'en fout. On s'en fout. Ça a déjà été préparé. C'est-à-dire que, il a déjà été blessé sérieusement. Il a manqué au Paris Saint-Germain à un moment critique sur le plan continental. Et c'est ce qui va se reproduire de nouveau. C'est pour ça que Tuchel, quand je vous dis, ça a déjà été préparé. Ça a été préparé par celui qui l'a précédé. Et lui aussi, il n'est pas tombé de la dernière pluie. Il a commencé à redéployer son équipe. Et dès la sortie, lors du match de coupe, contre Strasbourg, il les a un peu redéployés. Il n'avait pas le choix. Et puis c'est un Strasbourg qui est un Strasbourg intéressant cette saison. Là, c'est un Rennes aussi qui n'est pas dégoûtant dans le jeu. Donc, pour moi, de toute façon, cette adaptation, elle a déjà commencé. Il y a déjà réfléchi. Il sait très bien ce qu'il va faire. Moi, je sais pas ce qu'il va faire. Je lis pas dans les boules de cristal. Il a des joueurs, il a des garçons qui marquent des buts. Rappelez-vous, il y a un mois et demi, deux mois, on disait que Cavani était fini. Cavani n'est pas fini. Hein. Cavani n'est pas fini. Di Maria n'est pas fini.
Il a quand même des options.
Alors c'est il vrai a des options,
on
bien entendu.
On préfère voir le PSG avec Neymar parce que je pense que avec Neymar, ils ont plus de chances de gagner la Ligue des Champions que sans Neymar.
Mais
il a quand même malgré tout un Draxler qui peut jouer en soutien des deux attaquants. Il a un Di Maria qui peut jouer en soutien des deux attaquants. Il a plein de schémas à sa disposition et que bien sûr qu'il va être obligé de s'adapter. Lorsqu'on vous dit la blessure de Neymar, vous savez que dans 12 jours, s'il est là, c'est un miracle. C'est complètement inconcevable de dire que Neymar va jouer contre Manchester United. Mais maintenant, avec l'effectif qu'ils ont, c'est un problème de riche et le PSG ne peut pas s'en servir pour dire on n'est pas capable de battre Manchester United. Manchester United en ce moment ça gagne, il n'y a aucun problème, mais ça reste Manchester United et le PSG est bien supérieur en termes d'effectifs à cette équipe logiquement, même sans Neymar.
Olivier Dacour, ils sont impressionnants le PSG même sans Neymar pour vous?
Quand on a quand même Neymar, quand même il crée des situations collectivement mais même individuellement. Et la première mi-temps, j'ai envie de dire qu'en Ligue des Champions, si tu fais une mi-temps sur deux, un match c'est 90 minutes, si tu passes à travers 45 minutes, ça peut être compliqué à remonter. Donc oui, il y a suffisamment de joueurs, mais les grands joueurs, c'est les grands matchs. Et c'est pas Strasbourg ni Rennes, sans manquer de respect.
Mais il l'a pas montré pour l'instant, Neymar. C'est ça le problème, c'est qu'on dit les grands matchs, c'est les grands joueurs.
Contre Liverpool,
attendez, on est en match de poule.
Ouais, c'est ça.
On est en match de poule. Regardez aujourd'hui les stats d'un Cristiano Ronaldo. C'est le meilleur buteur en phase finale de Ligue des Champions.
Tu peux pas comparer encore. Oui, mais Cristiano.
Je suis d'accord, mais ces joueurs-là doivent faire la décision à ce moment-là. C'est-à-dire que
Neymar a marqué en finale de Ligue des Champions. Avec Barcelone.
Oui, mais sauf qu'avec le Paris Saint-Germain, il a été défaillant contre Munich, il a été défaillant contre Madrid.
Et puis t'as quand même l'idée qu'il y a sa destinée, elle est quand même particulière. Là, il a quand même raté la Coupe du Monde 2014, enfin la demi-finale contre l'Allemagne, parce qu'il se blesse. Il se blesse l'année dernière avant le huitième de finale retour avec les champions.
Il est blessé. Hein.
Oui, mais
rappelons qu'il se blesse pas tout seul. T'as des mecs qui lui tombent dessus quand même.
Non, mais je suis d'accord. Ça, c'est un débat.
Refaites-vous le film. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir le même match que vous.
On l'a vu, à un moment, le football aussi, c'est un sport de contact. Donc si.
Mais là, t'es en train de justifier les propos d'un Thierry Laurel.
Non, moi, je justifie pas.
C'est un sport de contact.
C'est un sport de contact. Et à un moment, il peut la jouer en une touche. Trois fois, il peut donner le ballon. Il la donne pas. Donc, à un moment,
pas son jeu.
Ben
c'est
justement.
Pas son jeu.
Donc il y a un arbitre, qui est là pour mettre des cartons. Si c'est justifié, il y a un arbitre. Le joueur, s'il commence à se faire humilier, il sait qu'il va prendre des coups.
Il doit se préserver en fait, Neymar. Ce qui est assez bizarre, c'est que dans son jeu, en fait, il se préserve pas. C'est-à-dire que tu joues une équipe comme Strasbourg où tu sais que les armes techniques, ils les ont pas réellement contre toi. Et en quelque sorte, tu accentues en fait le fait que ces joueurs-là vont te mettre des coups. Il a raison sur l'action. Moi, je dis pas que ce qu'il fait le joueur strasbourgeois n'est pas répréhensible. Il doit même prendre un carton, il y a aucun problème. Mais le fait que Neymar joue avec ces joueurs-là en mettant la semelle, venir au contact, au bout d'un moment, il va prendre des coups qui sont pas nécessaires pour cette compétition-là. Il joue contre Strasbourg, ça ne sert à rien.
rien. Libère ton ballon, préserve-toi.
Mais tu crois franchement que lui, dans sa tête, il se dit mais, je vais pas jouer comme ça.
Mais
parce
je suis d'accord avec toi, Franck. Mais quand tu es blessé en 2014, quand tu es blessé ensuite dans une autre situation où tu rates un huitième de finale retour contre un club, tu dois te dire bon, écoute, j'ai appris la leçon. De toute façon, je sais qu'on va me mettre des coups. Donc à un moment donné, j'évite ces coups, je les fuis. Et puis je me permets de quand même jouer des matchs qui sont plus importants. Tu me fais ça contre Manchester ou contre City ou contre le Bayern en quart de finale. Oui, bah c'est un problème.
Vous en avez joué des joueurs comme ça, vous les connaissez. Ils sont pas dans le calcul de telle compétition, tel match. Il a son registre.
Contre qui on jouait, le premier, quand on lui mettait, je peux te dire que la deuxième, il a lâché plus. Il a lâché plus rapidement.
Ouais, mais est-ce que t'as joué un phénomène comme Neymar?
Bah, je sais pas si le vrai Ronaldo c'était pas un phénomène, si Zidane n'était pas un phénomène, si Figo n'était pas un phénomène, et je peux en citer. Totti, je peux en citer des phénomènes.
Justement, Bruno Constant, vous, votre regard sur l'Angleterre ou Manchester, on a l'impression qu'ils sont libérés d'un certain poids, les Red Devils.
Ça s'appellerait José.
je ne cite pas de nom, comme on dit parfois. En tout cas, ils ont aligné une huitième victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Là, ils ont été battre Arsenal en les éliminant, et donc en les éliminant de la FA Cup. Hein. Mmh. Et donc l'ère Solskjaer, on voit briller de nouveau les grands joueurs qu'on attendait dans cet effectif. Non seulement Paul Pogba, mais Lukaku, Martial, Alexis Sanchez qui se remet à marquer.
Rashford.
Mmh. Rashford aussi. Est-ce que Tuchel a raison d'imaginer des tactiques pour contrer cette équipe de Manchester qui a l'air d'être à fond?
De toute façon, je pense qu'il n'aurait imaginé de toute façon avec José Mourinho ou pas. Ce qui est sûr, c'est que Manchester United est en train de changer. C'est plus uniquement Solskjaer qui redonne le sourire à Manchester United, c'est que maintenant ça prend de l'épaisseur, c'est que son équipe elle est mieux structurée que les semaines précédentes, que ses victoires, quand tu les gagnes face à Burnley ou Fulham, c'est on accepte. Quand c'est à Arsenal et à Tottenham, on se dit là ça devient sérieux, là c'est costaud. Et puis surtout, ce qu'on souligne pas assez c'est chez Solskjaer, c'est que il y a un apport tactique réel. C'est-à-dire que là il fait jouer son équipe en 4-4-2 avec un milieu en losange, avec un joueur qui est axial mais qui est faux neuf, avec deux attaquants qui sont très excentrés et qui ont pour but mission de plonger dans le dos des latéraux, et ça marche, c'est très efficace. Et là-dessus Solskjaer il apporte vraiment quelque chose. Il a resitué Pogba pas tant dans sa position parce qu'il est toujours milieu offensif gauche, mais il a libéré un peu de ses tâches défensives, et tout ça ça commence à devenir non seulement sérieux, mais en plus défensivement ils prennent confiance aussi. À Arsenal, moi je trouve qu'ils ont très très bien défendu, et en face c'était Lacazette et Aubameyang, le meilleur buteur de l'Angleterre, de la Première Ligue. Donc ça devient vraiment sérieux. Après, on a du mal à voir le niveau de Manchester par rapport au PSG, parce qu'il y a encore des carences dans cette équipe
importante. Parce que quand tu vois le match de Tottenham,
bien sûr,
ils doivent en prendre 4.
Exactement.
Ils n'ont pas Derrea qui est en feu, qui fait 11 arrêts, ils ont concédé, je crois, 22 tirs. C'est un Manchester United qui s'en sort bien. C'est sûrement le seul match qu'ils ne devaient pas gagner. Ce qui est intéressant dans ce que fait Solskjaer, c'est vrai qu'il a relancé certains joueurs, il a replacé Pogba. Herrera fait un super travail devant la défense. Je crois qu'il a aussi libéré Matic et Pogba dans l'aspect du jeu, ce qui n'était pas le cas avec Mourinho, où on demandait de récupérer le ballon et de s'arrêter là. Rashford, qui est un joueur pour moi au potentiel extraordinaire, fait beaucoup de mal aux défenses adverses, mais il ne faut pas oublier que derrière, ça reste Lindelof et Jones. Et franchement, quand vous voyez Mbappé avec Lindelof et Jones, ça peut faire exploser n'importe quelle défense. Ce qui est incroyable, c'est que je pense que Manchester United ne peut pas rivaliser en termes de maîtrise, c'est-à-dire face au PSG, c'est-à-dire en termes de possession. Par contre, ce qu'ils peuvent faire à Old Trafford sur le match aller, c'est de la jouer un petit peu à l'anglais, c'est-à-dire maintenant Old Trafford est derrière cette équipe, ce qui n'était pas le cas avant. Old Trafford recommence à faire du bruit, c'est-à-dire que le théâtre des rêves qui avait été oublié après l'ère Ferguson, en quelque sorte ça revient, il y a une forme de confiance qui revient. Et attention, c'est une institution Manchester United, c'est un club qui a énormément gagné, et même s'il y a des jeunes joueurs, lorsque vous êtes dans un club qui gagne énormément, et Olivier le sait puisqu'il a eu la chance de jouer dans des grands clubs, non mais vous arrivez et il y a un contexte positif et favorable, et tout ça, cette institution, vous êtes le garant de cette institution, et en quelque sorte ces équipes là elles ne meurent jamais, elles reviennent un jour ou l'autre. Et là c'est un huitième de finale de Ligue des Champions qui va être à guichet fermé, où ça va pousser, où en quelque sorte le Manchester va la jouer à l'anglais, c'est-à-dire qu'il va y avoir des vagues et des vagues et des vagues et des vagues. Et est-ce que le PSG est préparé à ça? Et rappelez-vous l'année dernière, lorsque le PSG perd 3-1 à Madrid, tout le monde se dit, s'ils avaient perdu 2-1, ah, ils avaient encore une chance. À 3-1, si vous avez le même scénario à Old Trafford,
au match retour,
eh ben, c'est pas pareil. Parce que le PSG n'est pas préparé à ça. Pour eux, le PSG ne sont pas encore préparés à ces matchs-là. Manchester, ils ont connu ça depuis 20 ans, ces matchs-là. Et Ferguson est l'après de Solskjaer. C'est un entraîneur qui converse énormément avec l'entraîneur anglais, l'entraîneur gallois qui a été écossais, qui a été à Manchester. Donc je crois qu'il faut faire quand même attention pour le PSG.
Olivier Dacour, je vous vois opiner du chef.
Parce que j'ai en mémoire le match à Liverpool où ils avaient vraiment souffert sur l'impact, sur l'intensité.
Paris.
Ah ouais, ça avait été très 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 compliqué pour eux, même à Naples.
Et dans une ambiance aussi assez hostile.
Si ça commence à pousser en Angleterre, ça donne des forces, ça donne des ailes et ça va être un peu compliqué. En tout cas, j'espère qu'ils réagiront. Ouais.
Franck, ça promet finalement quelque chose de très intéressant pour le Paris Saint-Germain, ce match PSG Manchester United.
J'espère. J'espère, tout simplement, mais mon inquiétude rejoint en fait l'analyse d'Olivier, dans le sens que le match à Liverpool, ils se sont quand même bien fait secouer. Moi, je reste sur les images, sur ce que j'avais vu ce soir-là. C'était n'importe quoi.
Ils ont failli gagner.
Ils ont perdu.
Je suis d'accord.
Vous avez failli gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Mais vous n'avez pas gagné, Habib.
Tu as tout à fait raison.
Voilà.
Ça, tu regardes. Tu as tout à fait raison, Franck. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en étant très mauvais, le Paris Saint-Germain, malgré tout, à 2 minutes de la fin, était à 2 buts partout. Grâce à ses individualités et à ce talent-là. Donc, je pense que le PSG est armé pour aller jouer Manchester United en termes de qualité.
Parce qu'il y a eu Napoli, le match à Naples, parce que tu as eu ce match retour contre le Liverpool. Mais malgré tout, et sans un Neymar, on pouvait espérer qu'il allait enflammer tout ça. Et ça me paraît difficile d'aller effectivement en Angleterre. Après, au Parc, si t'as pas trop pris de retard, si t'as fait un nul, mettons en marquant, si t'as pas pris de retard, avec Mbappé, ça peut le faire.
Après la blessure de Neymar, justement, ce sera peut-être un avantage pour le PSG face à Manchester United, parce que le PSG ressemble de plus en plus à une équipe de transition rapide. Où Cavani en profite énormément, on l'a vu lors du dernier match. Ça peut peut-être les avantager, parce que si tu laisses un peu la possession,
était favori avant la blessure de il y a quelques semaines, le PSG était favori.
Et puis au moment du tirage au sort aussi avec Mourinho.
On est en train de sentir que la forme de Manchester, les blessés du PSG,
ça rééquilibre un peu.
Un petit peu.
Bien sûr.
Et après, il y a l'expérience de
l'institution
Manchester United. Les grandes équipes ne meurent jamais.
Alors c'est juste Neymar, et bien parce qu'on distingue aussi dans cet effectif, il y a Cavani qui a inscrit un doublé hier soir, et puis il y a Kylian Mbappé, Hugo, qui continue quand même à lui. On parle des fois d'individualité ou de sport individuel parfois. Kylian Mbappé, il a des statistiques impressionnantes. Il a marqué le 3e but hier soir.
Oui, meilleur buteur de Ligue 1 avec 18 réalisations. Kylian Mbappé, buteur et passeur décisif lors d'un même match de Ligue 1 à 11 reprises. Donc ça, c'est nos confrères d'Opta qui sortent cette statistique. Le seul joueur qui fait mieux dans les 5 grands championnats européens, c'est Neymar, justement, buteur et passeur décisif dans un même match à 12 reprises.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui, certainement que ça peut venir de lui. Pour ce qu'il a montré dans les matchs, notamment de Coupe du Monde, on sait que voilà, s'il prend le volant, il est hors norme, lui il peut le faire. Non, Neymar n'est pas là, c'est à lui, et elles sont super ces statistiques.
Je suis d'accord avec vous, Franck. Ce qu'il fait hier, il faut le souligner, il y a peu de joueurs qui le font. La passe pour Cavani alors qu'il peut marquer son doublé, dans un sport où les statistiques individuelles sont beaucoup plus importantes que tout, ce qu'il fait hier, c'est seigneur. Je trouve que c'est respectable de la carrière de Cavani, et je trouve ça extraordinaire de voir.
Il apprend à côté de Neymar. On peut reprocher beaucoup de choses à Neymar. Neymar, il marque des buts et il fait aussi pas mal de passes décisives. Et je trouve que si Mbappé veut devenir le meilleur joueur, le Ballon d'Or, eh ben, il doit s'inspirer de Messi. Messi, il marque, il fait des passes.
Ça sera le mot de la fin, c'est vous qui l'avez eu, Olivier Dacour.
Je veux pas de problème avec Franck et avec Amine.
Merci beaucoup, messieurs, merci d'avoir participé aujourd'hui à ce Radio Foot International. Merci à Louis Lafargue qui m'a aidé à préparer l'émission, et à Julien Magoharou qui était à la réalisation aujourd'hui. On vous dit à demain.